France Culture.
Bonjour Simon Abkarian.
Bonjour.
On se retrouve pour le quatrième temps de nos à voix nues consacré aujourd'hui à votre écriture, au rôle de la tragédie et aux rapports hommes-femmes qui sont très présents dans votre œuvre, dans votre travail. Alors vous avez commencé à écrire en 2008 Pénélope, ô Pénélope, ça a été la première pièce. C'est l'histoire d'une femme qui attend le retour de son homme parti à la guerre 10 ans plus tôt. Elle est un peu victime d'un harcèlement amoureux, cette femme. Son fils est prêt à en découdre sa place. C'est un euphémisme, on va dire ça comme ça. Dites-nous quelle est l'origine de cette pièce et quelle est l'origine de votre envie d'écrire.
Oh. L'origine de cette pièce, c'est... Il faut remonter à ma rencontre avec les tragiques grecs et le tragique des familles libanaises qui ont vécu la guerre. Ma mère a attendu mon père 8 ans en France, et puis il est revenu, il est reparti aussi sec, pour des raisons diverses. C'était pas une incompatibilité humaine, c'était juste quelqu'un qui pouvait pas rester en place, quoi. Et l'écriture... Je crois que depuis l'enfance, j'aime ça. J'aime les mots, j'aime la poésie. Et c'est vrai qu'à l'époque Sarkozy, j'ai eu un déclic.
À l'époque Sarkozy, quand Sarkozy était élu président,
ouais,
vous voulez dire ?
Parce que j'entendais cette classe politique piétiner la majesté de leur fonction par le verbe, ou plutôt par le non-verbe. Et du coup, ça m'a remis un coup de rein, quoi. Il fallait que... avec mes petits moyens, remettre au centre de mon travail le verbe. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est émancipateur et révélateur de toutes les facettes de l'âme humaine et du monde dans lequel nous essayons de vivre. Donc ça a été ça, mais pas seulement, c'était pas une réaction à ce manque de choses.
C'est plutôt aussi... un déclencheur.
Oui, c'est un déclencheur et aussi... Je pense qu'il fallait à un moment donné s'emparer, essayer d'emprunter ce mode d'écriture qui est le tragique et le tragicomique aussi, pour raconter un tant soit peu notre monde tout en échappant au phénomène de l'actualité, quoi. De pas être dans ce sillon creusé par l'actualité.
C'est pour ça qu'aller chercher les tragiques. Grec, d'aller chercher Homère, la guerre de Troie et ses personnages, les Atrides, ces personnages, ça permet de parler de l'actualité tout en n'en parlant
monde,
pas.
Du monde de l'histoire qui est en train de se faire sous nos yeux. Voilà, on voit dans le monde en ce moment ce qui est en train de se passer partout autour de nous, à Gaza, en Ukraine, en Syrie, au Liban, au Yémen, au Soudan, en Chine, d'une manière plus sourde. En ce qui concerne les Ouïghours, mais je crois que le temps de notre présence sur cet endroit qui s'appelle le monde, la Terre, il est non pas de mon devoir, mais de notre intérêt commun, de mon intérêt à moi et de ma conscience qui est en train toujours de trépigner à l'intérieur de moi, de dire ce qui doit être dit de mon point de vue. C'est-à-dire arriver à relater ce qui se passe sans tomber justement dans une géopolitique qui serait frontale. Non, parce que quand j'écris, je nomme jamais les pays. J'ai décidé de, par exemple, dans Le Dernier Jour du Jeûne, ou même Pénélope, qui est le premier spectacle que j'ai écrit, qui est la matrice de tous les autres qui ont suivi, du point de vue de l'écriture. C'est dans un pays imaginaire, mais qui est imaginable. On peut très bien se resituer en tant que spectatrice ou spectateur, de se dire, tiens, ben, ça pourrait être le Liban, ça pourrait être la Syrie, ça pourrait être la Palestine, ça pourrait être l'Ukraine. Même si je suis plus focalisé sur un mode d'écriture méditerranéen, alors qu'est-ce que c'est que l'écriture méditerranéenne je sais pas. Mais en tout cas, c'est une parole qui se parle aussi avec le corps, avec les mains, avec les yeux, avec la voix qui monte parfois. Nous, on avait un prêtre jésuite qui disait, vous, les méditerranéens, c'est toujours le geste avant la parole et la parole avant la pensée. Donc ça a pris un temps de réflexion. Bon. Mais c'était une boutade de sa part, évidemment, mais c'est vrai que c'est une écriture et c'est un langage très engagé, qui engage le corps, qui engage les sentiments, qui sont dits, qui ne sont pas cachés. C'est une parole brutale, abrupte, lyrique, triviale, parfois. souvent même.
Oui, un mélange des deux.
Ouais. Donc, voilà.
Vous dites que c'est la matrice des autres.
Oui.
En quoi ? Vous avez trouvé une forme, vous avez trouvé une écriture avec...
J'ai trouvé mon langage, en fait, je pense. J'ai trouvé, pour être un peu pompeux, ma plume. Mais cette écriture-là aussi, elle vient du besoin que, parce que je suis un homme de théâtre et parce que je sais ce que c'est que la situation des acteurs sur un plateau, j'ai essayé de faire un maximum pour qu'ils puissent être nourris au point de vue du travail, au point de vue du jeu. Donc moi, j'ai écrit pour des acteurs, j'ai pas écrit pour une étagère et mettre le livre là-dedans, quoi. Même si la première lecture de cette première pièce avec l'équipe avec qui je l'ai créée, John Arnold, Georges Bigot, Jocelyn Lagarry, Catherine Chobab-Carian, et moi, et Sarah-Jeanne Griot. Ça a été une épreuve, quoi, à surmonter. Une épreuve de mettre ça à l'épreuve du théâtre. Je ne savais pas si c'était du théâtre, en fait. Je ne savais pas. Et c'est en ça que c'est la matrice du zoo. Parce que, et tout d'un coup, quand les acteurs ont commencé à se plonger dans l'histoire, dans le texte, dans le travail, j'ai compris que ce serait... Et c'est une histoire de rencontre probable, hypothétique, qui deviendrait peut-être du théâtre, quoi, entre une écriture et une équipe d'actrices et d'acteurs. Voilà.
Là, vous êtes déjà après, et on parlera d'ailleurs de l'art de la scène dans le cinquième épisode, mais vous écrivez pour des acteurs, pour un espace, qu'un espace scénique. Et moi, j'aimerais bien vous interroger encore sur avant, en amont, c'est-à-dire comment on passe de la lecture des tragiques grecs, de Euripide, de Homère, encore une fois, à une écriture qui est à la fois lyrique et triviale, qui est à la fois très grecque, c'est-à-dire au sens... du lyrisme grec et des thèmes de la haine, de la violence, de la guerre, de la trahison, de la vengeance, des abominations, avec quand même un ton d'aujourd'hui, avec quand même une forme de contemporanéité. Voilà. Est-ce que vous arrivez à expliquer le cheminement de la lecture de ces textes à votre écriture ?
C'est le théâtre qui est le lien. C'est le corps des acteurs et des actrices qui est le lien, c'est la vision de la metteuse en scène ou du metteur en scène qui est le socle de tout ça, le ciment de tout ça. Ça reste ancré dans une incarnation, en fait.
Il faut dire,
il faut être là, essayer de... d'être dans son temps, quoi. Mais en même temps, il faut se méfier, par exemple, du débit, de la ponctuation, du sens, parce que... de l'émotion... Parce que si vous voulez, aujourd'hui, il y a certaines émissions où on ne supporte pas le silence. Il faut que la réponse vienne comme aussi sec que la question. Avant même qu'elle ait fini de résonner en vous, il faudrait répondre à la question qui vous est posée. Et c'est vrai que, même dans le débit que j'essaye d'être le plus calme et respirant possible, là, maintenant. Et c'est de ça dont il faut se méfier, parce que la contemporanéité, comme vous dites, ce n'est pas parler vite et faire sens à chaque fois qu'on parle, quoi. Et c'est vrai ce que parfois il y a une petite méprise en ce qui concerne le lyrisme. Certaines personnes s'en méfient sans en comprendre l'histoire, parce que vieillot, parce que ceci, parce que cela. Le théâtre ne vieillit jamais. La parole du théâtre ne vieillit jamais. Ça reste toujours une langue étrangère, le théâtre. Le texte d'un poète ou d'une poétesse. Ou d'un auteur, d'une autrice, disons, ça reste une langue étrangère, ça reste une langue qui doit être articulée, qui doit être audible dans le sens sonore du terme. Même pas sensuel ou dans le sens émotionnel du terme, mais dans le sens auditif. C'est une langue qui doit être mâchée, il faut de la mâchoire, notamment pour mes textes, parce qu'il y a des mots. Et je fais attention à la sonorité des mots, à leur longueur, aux allitérations. C'est quelque chose que j'ai appris en travaillant sur des grands textes et en ayant autour de moi des gens qui veillaient à ce que, en tant que jeune acteur, je puisse être conscient de la langue, des longues, des brèves, etc., etc. Or, aujourd'hui, si on commence à sortir de ce rythme-là, on dit « ouais, mais ça, c'est vieillot parce qu'il faut parler le parler, quoi. » Or, il faut réinventer le parler au théâtre. Il faut le réinventer. Mais c'est pas amener le parler du quotidien et du prosaïque sur un plateau, parce qu'on s'emmerde.
Est-ce que ça veut dire, par exemple, que vous écrivez à voix haute, en lisant à voix haute ce que vous écrivez ?
Je lis beaucoup à voix haute, même quand c'est pas moi qui ai écrit, je lis les textes à voix haute, ne serait-ce que pour voir à quel moment le souffle doit être repris, etc., etc. Parce qu'il y a du souffle dans un texte, il y a du souffle. Et quand je parlais de ponctuation tout à l'heure, parfois je dis aux actrices et aux acteurs, réinventez votre propre ponctuation, parce que bon, ça fait sens, il faut que ça fasse sens. Il y a cette espèce d'emprise du sens qu'on dit tout le temps aux acteurs. Mais ils ne sont pas bêtes, les spectateurs, les spectatrices. Même si on déplace la virgule, ils vont très bien saisir le sens de ce qui est dit. Et en même temps, derrière, il faut qu'il y ait un souffle de la personne qui incarne ça. C'est pas... Le sens n'est pas la vedette, ni l'émotion d'ailleurs, ni le corps d'ailleurs. C'est un quadrige qui pousse, qui tire un chariot qui s'appelle le théâtre. Et les chevaux de tête s'interchangent, mais pendant la course. Donc, ça reste quelque chose de très mystérieux dans le sens où on n'a pas fini de l'étudier, quoi. On n'a pas fini de l'expérimenter, de mettre ça à l'épreuve, qui nous met elle-même la chose à l'épreuve en tant qu'humain, agissant sur un plateau.
Simon Abkarian, il y a aussi un lien très fort entre vos pièces. C'est-à-dire que toutes ne sont pas indépendantes les unes des autres. Vous fonctionnez par série, même par triptyque. Il y en a sept aujourd'hui, mais il y en a deux fois trois, on va dire. Pénélope au Pénélope a été suivi du dernier jour du jeûne, puis de l'envol des cigognes. Et c'est, on pourrait dire, une saga sur la guerre. Et puis il y a une deuxième saga, une deuxième série qui est sur l'amour et les rapports hommes-femmes, on peut le dire comme ça, on va développer. Ménélas Rhapsody, Hélène après la chute, et nos âmes se reconnaîtront-elles ? Est-ce que ça veut dire que quand vous commencez une pièce, par exemple Pénélope au Pénélope, ou par exemple Ménélas Rhapsody, qui sont les premières des trois, des trilogies à chaque fois, vous savez qu'il va y en avoir d'autres ? Ça ne suffit pas, une ?
C'est pas pendant, c'est après. Une fois qu'on a fini de jouer, je pense, il faut qu'on remonte l'histoire et qu'on raconte l'histoire de cette famille. Qu'on remonte à rebours le temps et qu'on retrouve ce jadis-là dans lequel le paradis était... pensait-on qu'il serait indestructible ? Alors que non. Enfin, c'est l'histoire du Liban. En fait, quand j'écris, quand tout à l'heure vous me demandiez pourquoi j'écris, moi je pars de ma famille, de ce que j'ai vécu. Mais ce que j'ai vécu et ma famille est largement insuffisant pour faire du théâtre. Il faut transcender tout ça, il faut le déployer jusqu'à ce que l'histoire personnelle qui est la mienne se dilue dans la grande histoire du théâtre, dans l'écriture du théâtre. Sinon, ma vie et ce que j'ai vécu n'est pas plus intéressante que la vôtre ou celle d'autres gens qui écrivent, quoi. Mais l'autobiographie me semble, alors à moins qu'on fasse un roman sur sa vie, ce qui moi m'intéresse pas, mais l'autobiographie sur un plateau de théâtre ne me suffit pas, n'est pas suffisant.
Mais ça veut dire, en terminant donc Pénélope au Pénélope, vous êtes dit, bon, maintenant il faut continuer sur cette famille, il faut qu'on voit ce qui s'est passé. Donc vous remontez 30 ans en arrière, dans le dernier jour du jeûne, où on voit cette famille vivre, aimer, manger, discuter, s'engueuler, etc. Et dans l'envol des cigognes, c'est la guerre. Et ce que fait la guerre sur les corps, ce que fait la guerre sur les familles. Donc, et on revient à un temps différent. Mais donc ça veut dire que vous avez encore une fois éprouvé le besoin de prolonger. Vous auriez pu le faire en une fois. Ouais. Là, ça a pris trois pièces et c'est la même chose avec la trilogie sur l'amour.
Si je ne l'avais pas fait, ça aurait été encore pas fini. Il fallait finir. Parce que j'avais besoin de dégorger ça aussi, de le sortir de moi. Quoi. Enfin, c'est une manière aussi d'ouvrir ces tiroirs secrets qu'on pourrait... Voilà, mettre sur le tapis en passant par le prisme du théâtre. Parce que sinon, ce serait insupportable. Ou alors, je vais en analyse, quoi. Et c'est très bien, mais moi, j'ai choisi de dégorger mon âme et mon cœur de tout ça en passant par le plateau. Je dis pas que ceci est meilleur que cela, mais moi, c'est mon moyen de transport, mon mode d'expression. Et je pense que ça va continuer. C'est vrai que je me suis posé la question, oui, mais avant. Donc je suis remonté 30 ans plus tôt, comme vous dites, et puis il fallait que je boucle l'histoire par la guerre du Liban, enfin la guerre civile, la guerre fratricide.
Une guerre, en tout cas.
Mais qui est fratricide, c'est une guerre intestine. Donc c'est le voisin qui tire sur le voisin. Vous allez à la boulangerie un beau matin, et puis vous voyez un gars avec qui vous vous êtes battu à l'école avant la guerre, qui vous colle une stène sur la tempe, quoi. Voilà.
Avec Électre des Bas-fonds, on est un peu à part. Vous revisitez l'histoire d'Électre. C'est une femme. Ça va nous amener vers cette place des femmes dans votre travail, Simon Abkarian. Mais Électre est à part. Et Électre est une pièce qui se suffit à elle-même.
Ouais. Moi, je l'ai joué au reste. Et je connais un peu l'histoire. Et j'ai pas la présomption de faire mieux ou de, comment dire, compléter ce qui fait défaut parfois dans la pièce. Mais c'est vrai que j'ai voulu donner la parole au chœur, aux femmes qui étaient présentes sur scène, de raconter l'histoire. Parce que si vous voulez, dans les écritures classiques, le chœur renvoie ce qui se passe chez les puissants. Mais on a rarement l'histoire du chœur, d'où viennent ces femmes. Et j'ai décidé d'en faire une saga aussi chorale qui raconterait ces femmes qui viennent de Troie et qui subissent l'esclavage et la prostitution de la part des vainqueurs, quoi. Et j'ai voulu aussi inverser les rôles entre Oreste et Electre, parce que j'arrive pas à comprendre, par exemple, dans la notion de courage ou dans la notion de désir de vengeance, le masculin du féminin, j'arrive pas à le démêler. Et j'ai pas très envie, je pense, de le démêler. Je pense que une femme, tout autant qu'un homme, est capable de prendre les armes pour une cause qu'elle pense juste. Voilà. Et c'est ce que fait Electre. Après, bon, c'est un matricide qui est comme ça, prié et voulu depuis le début de la pièce. Et c'est vrai que Oreste, quand il revient, bon, dans l'histoire, Oreste est comme ça évacué avant qu'il ne soit lui-même exécuté par Égiste, parce que c'est le descendant mâle d'Agamemnon de la lignée des Atrides. Quand il est évacué, il est enfant. Donc je me dis, mais et là on sort un peu de la fable et on revient. Moi, je suis revenu au réel. Et je me disais, bon, comment un enfant qui a dû partir de son pays à 2 ans, revient-il à 17, 18 ans, venger un père qu'il n'a jamais connu, en fait. Et tuer une mère qu'il n'a pas plus connue que son père, quoi. Donc c'est toute cette chose-là que je me suis posée comme question et redonnée aussi à Clytemnestre. Voilà le dernier monologue de Clytemnestre qui fait 1.5 pages. Son amplitude de mère et de femme guerrière. Je comprends très bien qu'elle tue son mari parce que c'est le dernier à tuer sa fille. Je le comprends très bien.
En fait, il y a comme une relecture hein, des tragédies antiques dans votre travail, Simon Abkarian, parce que vous parlez d'inversion des rôles, des places. Ça, c'est une constante dans votre œuvre. Dans la trilogie suivante, celle qui porte sur la guerre de Troie, avant, pendant, après, on va dire, avec pour personnages principaux Hélène et Ménélas, roi de Sparte, et Hélène enlevée par Paris, prince troyen, à l'origine donc de la guerre de Troie, qui a duré très longtemps, 10 années. Mmh. Et donc, là aussi, pour vous, la constante, c'est renverser le masculin et le féminin. Et c'est la grande différence, finalement, entre vos pièces à vous et les tragédies antiques de Répide ou d'Homère. C'est la place des femmes. Et c'est le rôle que vous donnez au féminin et au masculin. Est-ce que vous écrivez pour donner une place aux femmes différentes ?
J'écris
aussi, pas, hein, pas seulement.
Non, pas aussi, mais j'écris d'abord pour donner du travail à mes amies filles, actrices, et pour qu'on puisse avoir du travail sans faire de la figuration en tant que femme, et que ce soit des personnes qui construisent leur propre récit, non pas qu'ils soient en réaction au récit masculin. Et puis, je me sens la liberté de prendre ce matériau qui est l'Iliade et l'Odyssée, etc., et de le redire à ma manière. Parce qu'on enferme souvent, les Grecs enferment souvent les femmes dans des endroits bien précis qui sont contigus. Hélène étant enfermée dans le rôle de la putain et Ménélas enfermée dans le rôle du niais.
Mou, veu, lâche.
Voilà. Et je trouve qu'il faut essayer de trouver plus de complexité à l'humain. Et de pas les réduire à quelques phrases qui seraient arbitraires et qui enlèveraient du mystère et de la profondeur chez ces êtres-là. Donc c'est aussi le travail du théâtre que de le faire. Après, si vous voulez, en tant que homme oriental ayant grandi au Liban, venant en France, etc., ça, et ben, il fallait que moi aussi je déjoue en moi les mécanismes de la domination, on va dire masculine.
C'est-à-dire
parce que c'est un travail que je fais aussi sur moi en écrivant ça. C'est aussi ce que je déjoue de tout ce qui est de l'ordre de la misogynie, parce que je pense que c'est un cancer qui est un des plus vieux cancers du monde et qui malheureusement va perdurer encore un peu. Donc je rassure les hommes, on peut combattre la misogynie sans que ça nous en arrache une. Hein. Donc faut pas avoir peur de ça, quoi. C'est juste d'esprit à esprit, d'être à être. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Et c'est pour ça que la parole des femmes, elle est violente à l'encontre des hommes, parce qu'elle est à la mesure de l'oppression qu'elles subissent. Mes spectacles, pardon.
Vous allez même loin, Simon Abkarian, parce que dans Hélène, après la chute, vous racontez la confrontation. On est toujours dans la confrontation entre Ménélas et Hélène. On est au lendemain de la chute de Troie. Et vous donnez sa chance à Hélène d'énoncer sa propre histoire, sa propre version, sa propre vérité de femme. C'est-à-dire que vous en faites une femme libre, forte. Et là aussi, vous renversez la donne. C'est-à-dire que non, Hélène n'a pas été enlevée par Paris. Hélène a choisi de partir.
Parce que ça revient au même. Parce que d'un piège qui consiste à vivre sous le joug d'un homme, elle retomberait dans une vie qui ne serait pas décidée par elle, parce que ce serait un autre homme qui l'aurait enlevée. Donc il n'y a pas le choix de cette femme-là à ce moment-là.
Il n'y a pas de libre arbitre.
Non, il n'y en a pas. Et ça arrange les bidons de plein de gens, mais pas les miens, quoi. C'est-à-dire que c'est des choix. Moi, ma mère, elle a choisi de vivre sa vie parce que c'était son choix. De ne pas rencontrer d'autres hommes à part mon père, c'était son choix. Bon, je ne discute pas son choix, même s'il est parfois peut-être discutable, parce que c'est une femme qui a vécu toute sa vie après sans avoir un partenaire auprès d'elle. Bon, ça c'est son choix, et je le respecte infiniment. Mais au moins il est vu, il est vécu, mais celui d'Hélène on ne le voit pas, c'est juste un objet de désir qui est baladé d'un endroit à l'autre, et qui serait en plus la cause de tous les maux. Comme Pandore, comme Ève, etc., etc. Donc, la lignée de ces femmes responsables du malheur des hommes masculins, je veux dire, serait comme ça ininterrompue. Ben non, on va essayer de comprendre pourquoi elle est. Et lui tendre le micro, dire qu'est-ce que vous en pensez, Madame Hélène. Et c'est ça que j'ai essayé de faire. Et j'y suis pas allé avec le dos de la cuillère, je pense.
Non. Et quand on écrit. Dans la tête et dans la peau d'une femme, on cède de présence féminine, au pluriel peut-être même, de lecture, de discussion, de... Comment on fait ?
De tout ça. D'amis, femmes, de lecture, de... Et puis de décision presque politique, on va dire. C'est une décision politique de ma part, c'est une décision philosophique que de vouloir... me mettre, moi, en tant qu'homme masculin, etc., et éduqué comme je l'ai été, à déjouer certaines parties de cette articulation qui a été mise en place en moi. C'est-à-dire que de m'enlever de l'endroit du dominant à l'endroit de celui qui dégage l'espace. Parce qu'on dit souvent, il faut donner l'espace aux femmes. Mais tu le donnes parce qu'il t'appartient, l'espace ? Non. On continue même en disant il faut donner l'espace aux femmes. On continue à se conduire comme les propriétaires terriens de cet espace qui serait par comme ça générosité prêté aux femmes. Non, tu dégages quoi, tu sors de là. Tu dis pas je te le donne pas. Juste tu sors de l'espace, tu le rends vacant de ta présence. Et c'est ça que j'essaye de faire au théâtre. Et c'est vrai que il y a comme ça une joute. Ou tous les arguments qui sont donnés, parce que la domination, elle vient aussi de la puissance matérielle. Ce sont des rois, Ménélas est un roi, ce n'est pas seulement un homme, mais c'est aussi un roi. Donc elle a deux pôles, cette domination, elle a deux jambes. Et c'est de ça dont il faut, enfin moi, pour l'instant, j'en suis peut-être naïvement à 63 ans, essayer de parler de ça, quoi. C'est-à-dire de déployer l'écoute de l'homme, non pas la parole de la femme, mais l'écoute, d'avoir une vraie attention à la parole qui lui est adressée. Par la femme, dans mes spectacles. Et quand c'est le cas, ben, l'argumentaire, il s'étiole vite, parce que... Et après, je le dis à mon endroit, je fais ça, moi, c'est pas... Je vais pas changer le monde, mais je vais tenter de le faire. En tout cas, le mien. Et par extension, peut-être celui de quelqu'un qui serait dans la salle à voir le spectacle. C'est des réflexions, mais ça prend du temps. Même si on doit accélérer le processus, le temps de la prise de conscience que parfois, même très souvent, consciemment ou pas, nous continuons à participer à cette inégalité qui existe encore entre les hommes et les femmes, quoi. Ne serait-ce que par les blagues ou par les salaires, les comportements, les... Voilà. Au risque même de tomber dans un excès, quitte à revenir à quelque chose qui soit médian. L'excès, il est toujours là à nous guetter. La... Mais moi, j'ai décidé de passer par la brutalité et par la douceur de l'écriture et du théâtre. Voilà.
Vous avez commencé tôt, donc, au début des années 2010, à écrire. Sur ces pièces-là, il me semble que vous avez même commencé avant MeToo.
Bien avant. Oh, bien avant.
Et donc, vous avez continué parce que nos âmes se reconnaîtront-elles, qui fait l'expérience de la rédemption, du dialogue possible, date de 2023-2024. Donc on est avant, après. Entre-temps, il y a eu MeToo dans la société. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous dans votre vie de tous les jours? Est-ce que même l'écriture, le fait que vous ayez écrit dessus, vous a changé, vous?
Non. Non, parce que j'étais déjà sur les rails, quoi. Non. Non, ça n'a pas changé grand-chose.
Ça n'a fait que confirmer un certain nombre de choses.
Oui.
Éventuellement.
Oui, parce que... On l'a tous subi. D'une manière ou d'une autre. Par exemple, vous allez en boîte, vous voulez rentrer, jeune gamin, 19 ans, le mec, il vous laisse pas rentrer, vous allez dans un café, ils vous servent pas, ils vous sortent, vous êtes pointé du doigt, enfin... Ces choses-là existent, je les ai vécues, je les ai vues. Mais c'est vrai que moi, je les ai vécues en tant qu'immigré, en tant qu'exilé, immigré. Les sarcasmes et les humiliations, je les ai vécues autrement, à mon endroit. Donc je sais reconnaître l'injustice. Quand il y a un ministre qui dit « Calmez-vous », à la journaliste « Calmez-vous, madame, ça va bien se passer », c'est inadmissible, c'est pas possible. Ce n'est pas possible de dire des choses pareilles. Impossible. Impossible. Enfin, je ne trouve aucune excuse. Tu veux débattre, débat. T'es pas d'accord, t'es pas d'accord. Mais ne sois pas... le porte-parole de cette insulte qui dure depuis des milliers d'années. Tu dois être dans ce progrès-là, dans la retenue. Et non. Le type, ministre, lui dit « Mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. » C'est d'une tristesse, mais... Et c'est parce que c'est pas exemplaire. Ça donne de mauvais exemples. Or, comme dit le proverbe, le poisson pourrit par la tête. Quand la tête est pourrie, le corps suit. Donc la tête, elle doit être saine. Et la tête, c'est ce qui nous gouverne. Entre autres, pas que.
Un homme, ça s'empêche, disait Albert Camus.
Oui. Un homme, ça s'empêche parce qu'un homme doit se connaître. Les pulsions, ça se tient. Et c'est difficile. Je ne parle pas des pulsions forcément sexuelles, je parle des pulsions, des colères, des choses qu'on peut avoir, des véhémences qu'on peut avoir. On est tout le temps en train de se battre contre ça. Parce que les sentiments empêchent la clarté du propos. Sauf au théâtre. Sauf au théâtre. Les grandes colères... voile le propos, je pense.
Merci, Simon Abkarian. Le théâtre, il en sera encore question dans le dernier épisode. On va parler de votre art, de la mise en scène, de la façon dont vous dirigez vos acteurs. L'art de la scène, épisode 5. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Simon Abkarian, réalisation Nathalie Salle, prise de son Eric Audra, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brault est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.